Voilà, nous poursuivons notre petit parcours chemin du cœur avec la Compagnie de Jésus ce mois-ci. Et dans cet avant-dernier entretien, peut-être même le dernier entretien, parce que demain nous prendrons un temps plus libre d'échange ou de questions et pour revenir sur l'un ou l'autre point, sur l'un ou l'autre aspect, l'approfondir, l'éclairer. Voilà, donc ça sera plus interactif. Ce que nous vous proposons ce soir, pour terminer donc ce petit parcours, jeudi soir nous avons commencé avec une figure contemporaine, avec les poésies et les hymnes de Didier Rimaud, donc poète du XXe siècle. Et bien nous allons terminer cet après-midi avec à nouveau d'autres figures de jésuites du XXe siècle, qui ont été marqués, dont leur entreprise apostolique a pu être marquée par cet attachement au cœur de Jésus. Dans cette mission qui est cette fois-ci pleinement reconnue et intégrée par la compagnie elle-même. Et je veux d'abord commencer en vous citant quelques extraits de quelques décrets des congrégations générales, c'est-à-dire pour nous, jésuites, une congrégation générale, c'est, on pourrait dire, l'équivalent d'un chapitre général dans d'autres ordres religieux, simplement qui ne se tient pas à date fixe, mais qui se tient sous certaines modalités de convocation, mais qui est du coup l'organe juridique de la Compagnie de Jésus le plus haut, et qui va définir... qui va actualiser les constitutions, les normes, les décrets, c'est-à-dire tout ce qui va encadrer et guider, donner la structure juridique de la vie d'un jésuite. Donc vous voyez que lorsqu'il y a un décret qui est écrit, qui est publié lors d'une congrégation générale, c'est quelque chose de très important. Eh bien, voilà, ce matin nous avions... insister sur une œuvre qui s'était mise en route après la refondation de la compagnie, après sa recréation en 1814, l'œuvre de l'apostolat de la prière, qui avait commencé dans les années bienvenue, voilà, 1844, prenez place, voilà. En 1844, l'œuvre donc de l'apostolat de la prière qui se mettait en route, et vous avez pu entendre avec juste deux petits exemples qui étaient la répercussion en Irlande, et puis aussi dans la dimension jeune qui est devenue plus tard le mouvement eucharistique des jeunes. Donc ça a entraîné beaucoup de dynamisme au sein de l'Église universelle. Bien quelques années plus tard, de 1844, 1856, date majeure dans l'Église, c'est la reconnaissance enfin officielle, l'érection officielle de la fête solennelle du Sacré-Cœur, proclamée par l'Église, donc pour toute l'Église, 1856. Bien, quelques années plus tard, en 1883, la Compagnie de Jésus, donc en tant que congrégation générale, proclame qu'il soit bien établi que la Compagnie de Jésus, avec le plus grand plaisir et la plus profonde gratitude, accepte et assume la très agréable tâche qui lui a été confiée par notre Seigneur Jésus-Christ de pratiquer, développer et répandre la dévotion à son divin cœur. Vous voyez, dans ce décret, 46e décret de la 23e Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus en 1883, elle intègre formellement dans son ADN juridique le fait que cette mission du Sacré-Cœur confiée, révélée, manifestée explicitement par la dernière vision de Marguerite Marie le 2 juillet 1688. On peut se dire... il en a fallu du temps pour arriver à cette pleine reconnaissance. Mais rappelez-vous, gardez en mémoire qu'il y a eu aussi toutes ces vicissitudes de l'histoire de l'Europe, de l'époque, de l'Église dans cette histoire, voilà, avec la Révolution, encore une fois suppression de la compagnie, rétablissement de la compagnie, voilà, plein de péripéties qui ont pu ralentir. Voilà. Mais sur des décisions aussi importantes, il est tout à fait normal aussi que l'Église prenne son temps avant de proclamer quelque chose d'aussi solennel et qui aura des répercussions, non pas sur quelques années, mais sur les générations qui suivent. Et bien donc, à la suite de la proclamation de la fête du Sacré-Cœur, 1856-1883, les jésuites reconnaissent juridiquement cette mission. Et au long des congrégations générales suivantes, il n'y aura que des confirmations, voilà, et des encouragements à poursuivre, voilà, ce travail reçu de la part du Seigneur lui-même. Je vous cite juste quelques petits extraits. Voilà. En 1915, voilà, rappelle le grand empressement de la compagnie pour tout ce qui concerne le Sacré-Cœur de Jésus. En 1966, voilà, c'est cela que la compagnie doit s'efforcer d'obtenir aussi bien en ce qui concerne ses membres que dans son ministère, le service du Sacré-Cœur. Mais qui, vous voyez, qui prend aussi dimension et diffusion, non seulement dans des ministères explicites autour du Sacré-Cœur, mais dans toute forme de ministère. Toute forme de ministère. Elle exhorte ainsi tous les religieux de la compagnie à répandre de plus en plus l'amour envers le cœur de Jésus. C'est de ce cœur que le renouvellement tant attendu des esprits et des mœurs et l'accroissement d'efficacité des diverses institutions d'Église doivent recevoir leur inspiration et leur plus vigoureux élan. C'est intéressant, vous voyez, d'entendre ça, c'était en 1966. Ben ça reste profondément actuel. Et vous voyez que du coup, encore une fois, dans les affres ou dans les secousses que traverse l'Église du XXIe siècle, eh bien, comment nous pouvons entendre, nous, eh bien, que pour traverser ces épreuves qui sont les nôtres aujourd'hui, eh bien, le chemin qui nous est indiqué, c'est le chemin du cœur. Le chemin du cœur. Eh bien, donc, des compagnons du XXe siècle vont en être marqués très fortement. Et donc, c'est quelques figures que nous voulons vous présenter maintenant. Alors, voilà, avec nos différentes voix, nous allons commencer par... Alors, est-ce qu'on commence par le père Réus ou d'abord ou Théard
que... Oui, on peut dire un petit mot. Voilà. Là, je vais être très bref.
Alors, un certain père Réus.
Alors... Je suis, depuis quelques mois, épris, si je puis dire, du père Jean-Baptiste Réus, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, et qui vraiment, pour moi, est devenu un véritable ami au ciel, ami dans le Seigneur. Donc, alors il y a un problème apparemment. Alors, donc, le père Réus est un Allemand qui est né en Bavière, donc en 1868, voilà. Et il va mourir à San Leopoldo, au Brésil, au sud du Brésil, au sud-est du Brésil, San Leopoldo. Parce qu'il a consacré toute sa vie à la mission dans ce pays du sud du Brésil, où il y avait beaucoup d'Allemands qui s'étaient rendus, et qui formait une colonie extrêmement importante là-bas. Vous voyez, et donc il a été envoyé en 1900 pour opérer, pour évangéliser, pour annoncer le Seigneur, etc. Alors, brièvement, cet homme-là, c'est un homme qui est rentré au séminaire d'abord, qui a été ordonné prêtre diocésain, et puis ensuite il est rentré dans la Compagnie de Jésus, au noviciat des jésuites allemands. Il a fait sa formation avec beaucoup de générosité, et là, il a senti, dans sa retraite de troisième an, voyez, comme la colombière, elle fait ça aussi. Sa grande retraite du troisième an, à la fin des études, à la fin de la formation, après les années de régence, comme on dit, etc. Bon, eh bien, cette année, qui est la Scola Amoris, l'école de l'amour, il a vécu ça où il sentait qu'il devait être très uni à Jésus, très uni au mystère, en particulier de la passion de Jésus, et qu'il allait y consacrer toute sa vie, avec une droiture, une générosité la plus grande qui serait possible. Et donc, il est arrivé là-bas au Brésil, il a appris, bien sûr, le portugais, et puis il a vécu jusqu'en 1947. Et qu'est-ce qu'il caractérise? Eh bien, tout simplement, il a travaillé, il a été professeur, il a été père spirituel, il était supérieur de communauté, etc. Mais surtout, il a mené une vie qui était une vie en permanence de prière, d'intercession. Et sa dévotion principale, c'était le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Sacré-Cœur de Jésus, lui vivait vraiment un peu l'aspect de l'offrande de soi et de la réparation. Et donc, souvent on dit qu'il dormait sur des planches, voilà, qu'il ne dormait pas beaucoup d'ailleurs. Et puis, beaucoup, il vivait l'Eucharistie extrêmement intensément, sa propre messe, et puis il assistait souvent à d'autres messes pour y prier. Et souvent dans la journée, il avait beaucoup d'oraisons jaculatoires, comme on dit. Hein. « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous, Jésus doux et homme de cœur, etc. » Vous voyez, il était extrêmement habité par cette prière très très simple au cœur de Jésus. Alors évidemment, on avait recours à lui déjà de son vivant, parce que sa prière était extrêmement efficace. Hein, quand on demandait, on confiait des intentions au Père Jean-Baptiste, on savait que le Seigneur avait une oreille toute particulière à sa prière. Donc on était très touchés par ça. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que cet homme-là, c'est le seul cas que je connaisse dans la Compagnie de Jésus, il a été stigmatisé en 1912. Donc 1912 jusqu'en 1947. Mais c'était des stigmates... C'était un homme très discret. C'est des stigmates invisibles, c'est-à-dire c'était à l'intérieur, pas de la main et des pieds et du côté, voilà. Mais c'était pas visible, c'est-à-dire ça n'était pas sanglant, voilà. Mais c'était quand même pour lui extrêmement douloureux. C'était extrêmement douloureux. Et c'était pour lui la configuration au mystère de Jésus crucifié, voilà, dont il était extrêmement proche. Donc il a vécu ça, voyez. En réparation, en offrande de lui-même, tout au long de sa vie. Alors, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que sa mort a été un petit peu une apothéose. Et puis surtout, après ça, il y a l'église du Sacré-Cœur qui a été construite à San Leopoldo, et une église qui ne désemplit pas. Une église où toutes les semaines, en particulier tous les week-ends, il y a un monde fou qui vient. On vient vénérer, prier là, on vient aussi sur sa tombe qui est à côté. Et alors, il a là-bas, au Brésil, une réputation extraordinaire. On vient de très loin parce qu'on sait qu'on peut intercéder, on peut demander l'intercession du Père Jean-Baptiste Réus, qui est au ciel. Voilà. Et je vous le recommande beaucoup, hein, je vous le recommande beaucoup. Si vous voulez un intercesseur puissant, passez par le Père Jean-Baptiste Réus. Et là, c'est assez touchant de voir ça. Sa cause de béatification est introduite à Rome, et c'est vrai qu'il y a énormément de postulats qui sont venus, de demandes qui sont venues, et surtout du Brésil. La langue portugaise, je suis un petit peu écran, parce que moi j'ai eu de la peine à avoir des renseignements, parce que le portugais, on ne connaît pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît le portugais, et voilà. Mais ceci étant, sa cause est extrêmement encouragée par énormément de lettres qui viennent à Rome, pour le postulateur de sa cause. Voilà. Alors, c'est tout, je voulais vous dire ça. Voilà, vous voyez, c'est à sa manière un autre Père La Colombière, quoi. Voilà. Et moi, je suis très touché par ça. Voilà. Et le rayonnement qui est le sien.
Merci. Merci. Vous voyez que nous-mêmes, nous ne cessons de découvrir des figures étonnantes dans notre propre histoire, qui nous était inconnue jusqu'à il y a quelques mois encore, pour nous Français. Jean-Baptiste de Reuss, donc 1867, un autre compagnon un peu contemporain qui naîtra quelques années plus tard, en 1881, mais là une figure dont vous avez dû entendre parler, qui est Pierre Teilhard de Chardin. Ça vous dit quelque chose ? Ben, c'est une figure qui a été complètement portée par l'expérience du cœur de Jésus. Teilhard de Chardin, donc, qui naît en 1881 et qui va avoir un travail de paléontologue, mais aussi avec une formation de théologien, de philosophe, voilà, un grand intellectuel. Donc là, vraiment, effectivement, une figure de pointe. Et ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'a beaucoup touché dans la rencontre de cette figure-là depuis de nombreuses années, c'est combien, vous voyez, il est né en 1881, donc il va vivre toute une première partie de sa vie avant la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale. Il sera même ordonné en 1911. Mais c'est au cœur de la Première Guerre mondiale qu'il va avoir ses intuitions spirituelles qui vont le guider ensuite toute sa vie, qu'il va avoir de cesse, il n'aura de cesse de les creuser tout le reste de sa vie. Ces grandes visions et cette grande recherche aussi, ce dynamisme qu'il perçoit dans la création tout entière, dans le cosmos intégral. Et rappelez-vous que dans les années 1910-1911, on a encore une vision extrêmement statique de l'univers. On n'a pas encore la conscience que l'on a aujourd'hui, voilà, de l'expansion de l'univers, que l'univers est parti après les découvertes scientifiques d'aujourd'hui, à partir de ce qu'on appelle un Big Bang, etc. etc. Bon, c'était une vision extrêmement statique. Eh bien, le père Teilhard, lui, va avoir cette intuition d'une cosmogenèse. Alors il va utiliser beaucoup de termes qui vont être compliqués, difficiles à comprendre, qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais il cherche à forger des mots pour dire cette expérience profonde et qui vient de Dieu et qui va vers Dieu. Et il l'aura avec cette vision centrale pour lui de ce qu'il va appeler le point oméga, qui est ce Christ universel qui rassemble l'ensemble de la création. Mais il va faire donc un travail surtout donc de paléontologue, mais son travail de scientifique va être traversé avec son questionnement de croyant, de chercheur de Dieu, voilà, profondément. Mais ce qui est intéressant, enfin moi ce qui me touche beaucoup, c'est que voilà, au cœur de l'enfer des tranchées, de la guerre de 14-18 qu'il traversera de bout en bout, eh bien, il va avoir sur ce terrain en ruine, eh bien, ses intuitions, cette vision d'un monde en genèse, Et cela s'est porté par une expérience profonde du cœur de Jésus. C'est sa famille qui le certifie. La dévotion au cœur de Jésus de Pierre Teilhard de Chardin lui fut d'abord transmise essentiellement par sa mère. Celle-ci emmenait régulièrement ses 11 enfants à Paray-le-Monial. Tiens, 11 enfants. Régulièrement à Paray-le-Monial. C'est d'ailleurs en rentrant de Paray que Françoise, l'une de ses sœurs, annonça son désir d'entrer chez les petites sœurs des pauvres. Une autre sœur de Pierre s'appelle Marguerite Marie. Pour vous dire donc, l'attachement essentiel de toute la famille dans le cœur de Jésus et qui va marquer profondément Pierre lui-même. Pierre le dira dans sa correspondance, dans ses écrits, que dans l'histoire de sa vie spirituelle, le point de départ, le rôle capital germinal, comme il dit, est cette dévotion au Sacré-Cœur qui a embrasé son univers, qui n'était pas encore, comme il dit, demi-personnalisé, c'est-à-dire qui n'avait pas encore pris totalement sa forme, mais dont il a reçu, de par sa mère qui ne s'est jamais lassé de le nourrir sans se douter des transformations que lui fera subir son insatiable besoin d'organicité cosmique. Ça, c'est les termes même de Pierre Teilhard de Chardin. Voilà. Il va rentrer donc dans ce cœur à cœur et qu'il ne va cesser d'approfondir à travers la lecture des Écritures, bien sûr, dans tout son travail, dans tout son cheminement de formation de jésuite à la pédagogie des exercices spirituels, ce que nous avons vu hier matin. Il se laisse façonner, mais cela le conduit dans un cœur à cœur toujours plus intense. Toujours plus intense. Et il y a quelques écrits des temps de guerre qui méritent d'être entendus ce soir, que je vous propose d'écouter. Au moment des... Donc, il est mobilisé dès le début de la guerre, à la fin de 1914. Il avait été jugé inapte au moment du service militaire. Donc, il n'a pas fait de service militaire. Mais au moment de la mobilisation, et donc de la Première Guerre mondiale s'amplifiant, toutes les classes d'âge sont rappelées, et même ceux qui avaient été jugés inaptes sont enrôlés. Et lui, donc, est enrôlé comme simple brancardier. Mais brancardier, du coup, il est envoyé vraiment sur la ligne de feu, sur le front, en première ligne, pour ramasser les blessés et les morts. Et il va traverser, donc, tous les lieux où ça tapait dur. Ça tapait dur sur les lignes de l'Aisne jusqu'au siège de Verdun, tout particulièrement. Et c'est là, au siège de Verdun, en 1916, qu'il écrit comme une vision. En fait, il nous relate son expérience de manière indirecte, mais il nous dit l'expérience qu'il a en rentrant dans une chapelle, à peu près délabrée, mais encore un peu debout, sur le champ de bataille. Il rentre dans une chapelle où se trouve un tableau, dit-il, du Christ avec son cœur rayonnant. Juste quelques extraits. À ce moment-là, j'avais l'esprit occupé d'une question mi-philosophique, mi-esthétique. Comment, si le Christ daigna apparaître ici, comment serait son aspect? Quelle serait sa parure? Il se dit cela en face de ce tableau. Mon regard s'était arrêté machinalement sur un tableau représentant le Christ avec son cœur offert aux hommes. Ce tableau était accroché devant moi au mur de l'église où j'étais entré pour prier. Et suivant le cours de ma pensée, je ne savais comment il serait possible à un artiste de représenter l'humanité sainte de Jésus sans lui laisser cette fixité trop précise de son corps qui paraissait l'isoler de tous les autres hommes, sans lui donner cette expression trop individuelle de sa figure qui a supposé qu'elle fût belle, l'était d'une manière particulière. Donc je m'interrogeais. Curieusement, la vision commença. À vrai dire, je ne saurais préciser quand elle commença, mais elle avait déjà une certaine intensité lorsque je pris conscience d'elle. En laissant mon regard errer sur les contours de l'image que je contemplais, je m'aperçus tout à coup qu'il fondait. Les contours de l'image fondaient. Mais d'une manière particulière, malaisée à exprimer, quand j'essayais de voir le tracé de la personne du Christ, il m'apparaissait nettement délimité. Et puis, si je laissais mon effort de vision se relâcher, toute la frange du Christ, les plis de sa robe, le rayonnement de sa chevelure, la fleur de sa chair, passait pour ainsi dire dans tout le reste. On eût dit que la surface de séparation du Christ et du monde ambiant se muait en une couche vibrante où toutes les limites se confondaient. Il me semble que la transformation dut affecter d'abord un point sur la bordure du portrait et que là elle procéda en gagnant tout le long du contour. C'est au moins suivant cet ordre que j'en pris conscience. À partir de là, la métamorphose s'étendit rapidement et atteignit toute chose. D'abord, je m'aperçus que l'atmosphère vibrante dont s'auréolait le Christ, n'était pas confiné dans une petite épaisseur autour de lui, mais s'irradiait à l'infini. Il y passait de temps en temps comme des traînées de phosphorescente trahissant un jaillissement continu jusqu'aux sphères extrêmes de la matière, dessinant une sorte de plexus sanguin ou de réseau nerveux courant à travers toute vie. L'univers entier vibrait. Tout ce mouvement paraissait émaner du Christ, de son cœur surtout. C'est pendant que j'essayais de remonter à la source de l'effluve et d'en saisir le rythme que mon attention, revenant au portrait lui-même, je vis la vision monter rapidement à son paroxysme. Et ainsi la vision se déploie. Si vous voulez la lire, la retrouver, c'est dans les écrits de Teilhard de Chardin, dans le tome qui s'intitule « Hymne à l'univers ». Mais pour vous dire, vous voyez, en 1916, au cœur de la conflagration du siège de Verdun, devant le fort de Douaumont, il était au siège de Douaumont, et donc vous savez, tout ce bourbier, tout ce mélange, il a cette vision, et qu'il ne saura, il ne cessera de déployer dans le reste de sa vie, de chercheur, de paléontologue, dans ses expéditions qu'il vivra plus tard, dans la croisière jaune, sur les rivages de la Chine et à la rencontre aussi des autres continents, dans la recherche des premiers hominidés, qu'il va voir et qu'il va sentir dans sa recherche de scientifique ce mouvement, ce dynamisme de la création tout entière et qui converge ou qui rayonne, en tout cas qui trouve son accomplissement dans le cœur du Christ, qui saisit l'ensemble du cosmos. C'est encore là qu'il aura, quelques années plus tard, en 1918-1919, les intuitions de cet autre grand texte qu'il poursuivra jusqu'en 1923 dans le désert d'Ordos, en Asie centrale, et qui s'intitulera « La messe sur le monde ». Vous en avez entendu parler, « La messe sur le monde », un très grand texte de Teilhard de Chardin, où là aussi, en tant que prêtre, il commence tout simplement, ça vous dit la teneur du texte. Juste le début. Puisque une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel, je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du réel, et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. » Ça, c'est le début de ce texte profondément mystique de la messe sur le monde. On parlait de l'offrande eucharistique ce matin, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Faire de l'Eucharistie ce mouvement aussi existentiel qui emporte toute notre vie, non seulement dans l'acte liturgique, mais dans toutes les réalités. Et bien là, lui confronté à une situation très, très concrète d'impossibilité de célébrer le mystère eucharistique liturgique, parce qu'il était pris dans sa croisière ou il était dans les forêts de l'Aisne encore pendant la guerre de 14-18, et bien néanmoins, il a cette prière qui monte d'offrande de l'ensemble de la création et tout son texte traverse cela. Et à la fin de cette méditation et de cette contemplation globale, il termine avec cette prière. Seigneur, Seigneur Jésus, maintenant que voilé sous les puissances du monde, vous êtes devenu véritablement et physiquement tout pour moi, tout autour de moi, tout en moi, je ferai passer dans une même aspiration l'ivresse de ce que je tiens et la soif de ce qui me manque. Et je vous répéterai, après votre serviteur, les paroles enflammées où se reconnaîtra toujours plus exactement, j'en ai la foi inébranlable, le christianisme de demain. Écoutez bien ce qui suit. Là où va se reconnaître le christianisme de demain. Seigneur, enfermez-moi au plus profond des entrailles de votre cœur. Et quand vous m'y tiendrez, brûlez-moi, purifiez-moi, enflammez-moi, sublimez-moi, jusqu'à la satisfaction parfaite de vos goûts, jusqu'à la plus complète annihilation de moi-même. Seigneur, oh oui, enfin, par le double mystère de la consécration et de la communion universelle. J'ai donc trouvé quelqu'un à qui je puisse, à plein cœur, donner ce nom, tant que je n'ai su ou osé voir en vous, Jésus, que l'homme d'il y a 2000 ans, l'ami, le frère, mon amour. Mon amour est resté alors timide et gêné. Seigneur, enfermez-moi au plus profond des entrailles de votre cœur. Enfermez-moi en vous, Seigneur. Dans votre cœur, dans votre cœur. Ça, vous voyez, ça commence, encore une fois, là aussi, dans l'énigme de cette violence déchaînée de la Première Guerre mondiale. Eh bien, au cœur de ce bourbier, un homme en particulier, d'autres certainement, voilà, vit cette expérience mystique profonde qui va marquer toute sa vie d'homme, sa vie de jésuite. À la fin de sa vie, voilà, avec toutes les recherches qu'il aura menées, il dira dans les dernières notes de son journal en 1951, il dira « mon double témoignage, le cœur, le monde a un cœur et ce cœur est celui du Christ ». Et vous voyez que du coup, ce que je vous disais au début de son parcours, en 1916, ce n'est pas simplement l'émotion d'un instant ou simplement quelque chose qui serait passager. Non, c'est quelque chose qui a marqué tout son itinéraire et qu'il redit avec force dans ses dernières notes avant de vivre sa Pâque. Le monde a un cœur et ce cœur est celui du Christ. Et ce qui est intéressant d'entendre, c'est qu'il fait une demande au Seigneur pour bien finir sa vie. Quand il sent que voilà, les forces faiblissent et que le temps, le moment du passage approche, vers la fin de sa vie, en 1955, il est mort en 1955, eh bien, en 1950, il fait cette prière au Seigneur. « Mon Dieu, je vous en supplie, aidez-moi à bien finir. Jésus, aidez-moi à bien finir. » Mais en même temps, avant de finir et en finissant, à faire le geste qui sera, dans mon cas, le plus efficient pour faire avancer votre règne. Ô Jésus, faites que je finisse bien, c'est-à-dire dans un geste de témoignage, scellant l'affirmation et la foi de ma vie en un pôle d'amour vers cette dérive, cette montée universelle. Voilà. La communion par la mort. Ça, il l'écrit dans une note de retraite, en 1950. Eh bien, quel jour vivra-t-il sa Pâque ? Eh bien, le jour de Pâques 1955. Souvent, je suis très frappé de voir combien dans les grandes figures spirituelles, je vous l'ai dit en vous présentant Didier Rimaud jeudi soir, combien les moments des naissances et des Pâques, voilà, de ces grandes figures peuvent être extrêmement significative de la vie qui les a animés, qui les a traversés. Et bien voilà, cet homme qui a été traversé, porté par l'expérience profonde du cœur irradiant de Dieu, vit sa Pâque, le jour de Pâques, et de manière tout à fait, qui est survenue de manière imprévisible. Voilà, il est mort subitement, jour de Pâques. Toc. Voilà une grande figure. Et vous voyez qu'il nous parle du christianisme de demain, dans cette voilà, être pris dans le cœur de Jésus. Une autre figure qui est importante, que va nous présenter maintenant Charlie, qui est la figure du père Pedro Arrupé.
Donc, Pedro Arrupé, donc espagnol, basque, né en 1907 et il meurt à Rome en février 1940. 91. Alors, il fait des études de médecine et après quelques années, il fait un pèlerinage à Lourdes avec ses sœurs et il témoigne une guérison pendant la bénédiction du Saint-Sacrement. À Lourdes. Et quelque temps après, il revient à Madrid pour faire son peut-être dernière année de médecine. Et il a perdu le goût de faire des études. Et il sent une appel vers le prêtrice. Et en 1927, il entre dans la compagnie de Jésus. Donc, il fait 2 ans de noviciat en Espagne. Et pendant ce temps-là, il sent un appel d'être missionnaire au Japon. Alors, à cette époque-là, le Japon était une mission ouverte. C'est-à-dire que n'importe quel jésuite pouvait écrire au Père Général en lui demandant d'être envoyé au Japon. Alors, il a mis une lettre, mais en fait, la réponse était négative. Mais son supérieur était gentil, en fait, lui encourageait de dire « peut-être un jour, vous y allez ». Alors, les années 30, c'est la guerre civile en Espagne, les jésuites sont chassés de l'Espagne et donc il fait ses études en Belgique, en Hollande et aux États-Unis. Il est ordonné en 36 et en 38, il est envoyé au Japon. Et c'est au Japon qu'il expérimente l'efficacité apostolique du Sacré-Cœur. Il raconte que tout de jeune prêtre qu'il était, il ne savait trop par où commencer son travail apostolique. Mais il disait, il racontait après, que la Providence l'indiqua le chemin qu'il devait faire. Alors, je cite, « Les religieuses d'une communauté de Tokyo, chez qui je me trouvais, me demandent, « Père, ne voudriez-vous pas consacrer notre maison au Sacré-Cœur, car nous ne trouverons aucun prêtre disponible pour le faire. » Ainsi, quelques jours plus tard, je me rendis chez les sœurs. » Et il faisait cette consécration simple, bref. Il disait que c'était pour lui, c'était une inspiration. Parce que durant le reste de son séjour à Tokyo, il a passé son temps à consacrer les familles au Sacré-Cœur. Il disait que c'est ainsi que j'ai pu expérimenter les merveilles promises par le Seigneur à tous ceux qui consacrent à lui dans le sanctuaire du foyer. Alors il disait, marchant pieds nus dans leur foyer, ils ne sentaient pas toujours bien reçus. Certains étaient bouddhistes, shintoïstes ou indifférents. Mais il disait que quand, dans le silence d'une foi profonde, nous commencions à réciter les paroles simples et nobles de la consécration, quand l'émotion des catholiques faisait couler des larmes furtives ou provoquer des sanglots, les indifférents commençaient à découvrir que la grâce se frayait un passage et à percevoir la force de ce qui est divin. des païens convaincus, des gens ayant perdu la foi, changer d'attitude. Alors il disait, il donnait un exemple avec des garçons. Au moment d'une catéchèse, il faisait la catéchèse aux enfants. Alors, il y avait parmi ceux qui étaient là des chrétiens, mais d'autres qui n'étaient pas encore chrétiens. Alors, je cite, « Ce jour-là, il voulait leur enseigner la valeur réparatrice du sacrifice. » Dans le groupe, il y avait deux garçons, un grand et un petit. Et ils habitaient proches l'un à l'autre. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé de mauvais entre eux. Et ils s'est retirés chacun dans un coin, le visage dur. Mais à la fin du cours et de prière, le plus âgé s'est approché au plus jeune et sans rien dire a fait signe de partir ensemble. Alors, quand ils étaient tous partis, le père Aroupé a ouvert une boîte dans laquelle ils avaient mis leurs prières pour les brûler devant un icône de Sacré-Cœur, et il trouve une prière qui n'était pas signée. Et donc, la prière était ceci: pour toi, Jésus, je fais la paix avec Takeo. Cependant, c'est lui qui avait tort, et pas moi, tu le sais. Mais pour te consoler, je retournerai avec lui à la maison comme si rien ne s'était passé. Alors, il raconte aussi qu'une petite communauté, un petit groupe de jésuites espagnols se consacrait au Sacré-Cœur. Alors, il se trouvait au moment de... Il était au Japon pendant la guerre et il était maître novice, responsable des jeunes jésuites novices, 6 kilomètres en dehors de Hiroshima. Et il était là au moment de la bombe atomique. Et le lendemain, il a ouvert sa maison comme petit hôpital. Et ses études de médecine lui a aidé à soigner des malades. Mais chaque matin, il disait la messe devant des corps partout, consacrant sa journée au Seigneur. Alors, il se trouve qu'en 1965, il y avait une congrégation générale à Rome, parce que notre général est mort un peu de temps avant, et lui était élu supérieur général. Alors, il disait que un grand soutien pour lui, c'était que son bureau était aménagé avec un petit cloison, où derrière un petit cloison, il y avait une petite chapelle, 3 mètres par 5, avec un autel, un signe d'une croix, un icône de Marie, un coussin japonais. Et il disait qu'il avait l'impression, en fait, il croyait vraiment que le Christ était présent dans toutes les rencontres qu'il a pu avoir dans son bureau. Alors, c'était un temps... Les années après Concile n'étaient pas des temps faciles. Je vous donne un exemple. Il est allé en Espagne pour rencontrer des jésuites. Alors, c'était sa politique ou sa manière de procéder que quand un chef d'État invitait à le voir, il disait toujours oui. Alors, à ce moment-là, c'était Franco. Et Franco n'était pas bien vu par tout le monde. Alors, il était invité, donc il allait. Alors, il y avait un groupe de jésuites, parmi lesquels les prêtres ouvriers, qui disaient, ils sont retirés, ils ne sont pas venus le voir. Et en même temps, il y avait d'autres jésuites espagnols qui voulaient une réforme de la compagnie tout à fait autre, en créant une autre compagnie. Ils ont fait demande au Paul VI, le pape, qui a dit non. Mais donc, il y avait beaucoup de problèmes. Mais c'était un homme de foi, vraiment de foi. Alors, je vous donne deux petits témoignages. La première fois que je l'ai vu, en tant que jésuite, il est venu en Irlande et il a rencontré les jeunes jésuites. Alors, je n'ai pas tellement... je ne peux pas dire ce qu'il avait dit, mais ce qui m'est resté, c'était sa joie qui rayonnait. Et j'avais ce réflexe, ce qu'il a, je veux avoir. Je ne sais pas comment il a pu l'avoir, mais je voudrais bien avoir cette joie. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième, il est venu à Dublin en 1981. Donc, il était assez âgé. Et il y a quelques mois plus tôt, il pensait qu'il doit se démissionner. Il avait écrit aux provinciaux en demandant leur avis et en disant qu'il sentait que son corps n'allait pas très bien. Et ils étaient d'accord. Mais le pape, Jean-Paul II, ne voulait pas qu'il se démissionne. Alors, nous étions conscients de ça. Alors, ce qui m'a frappé dans son discours, il nous a raconté un peu cette histoire. Il nous a dit, je suis en paix. Je voulais me démissionner. Ce n'était pas accepté. Très bien. Je continue. Je suis en paix. Alors, il a accepté tout cela. Alors, 6 mois après, il est tombé d'une...
Une thrombose
cérébrale. Et il a passé les dernières 10 ans de sa vie silencieusement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir parler vraiment. Donc c'était son offrande finale.
Mais voilà, juste avant cette thrombose qui le réduise au silence, il a pu avoir un discours le 6 février 1981, un discours très important sur la spiritualité ignatienne, et dans ce discours, il termine avec ces mots. En achevant ces pages, je pense dire à la compagnie quelque chose que je pense ne pas devoir taire. Depuis mon noviciat, j'ai toujours été convaincu que dans ce qu'on appelle la dévotion au Sacré-Cœur était renfermée une expression de ce qui est le plus profond de l'esprit ignatien, et que s'y trouve une efficacité extraordinaire, aussi bien pour la perfection personnelle que pour la fécondité apostolique. Cette conviction est toujours la mienne aujourd'hui. Certains auront pu s'étonner que pendant mon généralat, j'ai relativement peu parlé du sujet. Il y a à cela une raison que nous pourrions dire pastorale au cours des dernières décennies, l'expression même de Sacré-Cœur n'a pas été sans provoquer en certains lieux des réactions de caractère passionnel et allergique, peut-être en partie parce que l'on réagissait à des formes de présentation et à une terminologie trop en lien avec des époques passées. C'est pourquoi il m'a paru préférable de laisser passer quelque temps, persuadé que cette attitude plus passionnelle que rationnelle viendrait à s'apaiser. Je nourrissais et je nourris encore la certitude que la valeur très haute d'une spiritualité si profonde, que les souverains pontifes ont dit suprême, ne tarderait pas à réapparaître de nouveau. C'est pour cette raison que, à mon grand regret, j'ai relativement peu parlé et écrit sur ce sujet, bien que j'en ai fréquemment traité à l'occasion de conversations à titre personnel, et que je regarde cette dévotion comme l'une des sources les plus intimes de ma vie intérieure. Pedro Arrupe, général de la Compagnie de Jésus, vous voyez, général de la Compagnie de Jésus. Et il termine avec ce vœu qu'il adresse aux jésuites en particulier. Si vous vouliez un conseil après 53 ans de vie dans la compagnie et presque 16 ans de généralat, je vous dirais que dans cette dévotion au cœur du Christ se cache une force immense. Il appartient à chacun de la découvrir, s'il ne l'a pas encore découverte, et de l'approfondir et de l'appliquer à sa vie personnelle selon ce que le Seigneur lui montre et lui accorde. Il s'agit là d'une grâce admirable que Dieu nous offre. La compagnie de Jésus a besoin de cette dynamis enfermée dans ce symbole et dans la réalité qu'il nous annonce, l'amour du cœur du Christ. L'amour du cœur du Christ. Je suis persuadé que peu de preuves pourraient être aussi claires que la rénovation spirituelle de la compagnie qu'une dévotion vigoureuse et générale au cœur de Jésus. Notre apostolat y trouverait une nouvelle vigueur et nous ne tarderions pas à en voir les effets aussi bien dans notre vie personnelle que dans nos activités apostoliques. Et le vœu ultime de Pedro Arrupe, général de la Compagnie de Jésus, juste avant d'être réduit au silence par la thrombose cérébrale. Voilà ce qui l'anime et ce qui le porte pour ses frères jésuites, c'est-à-dire pour nous. Mais vous voyez bien aussi pour toute l'Église. Vigueur apostolique, fécondité et vigueur apostolique.
Alors, the last, not the least. Donc, je vous dis quelques mots du père Édouard Glotin, qui est un grand ami dans le Seigneur, avec qui j'ai vécu les dernières années de sa vie, puisque j'étais supérieur à la maison de Pau, où il est décédé donc en 2015, le 21 octobre 2015, à 88 ans. Donc le père Édouard Glotin est un homme qui a été ici assez longtemps à Paris, dans les années, je ne sais plus exactement, peu importe, mais il a vécu une quinzaine d'années ici, et puis il a beaucoup travaillé. C'est un homme qui est né donc en 1927, un homme d'une famille chrétienne, extrêmement sensible et douloureux quand même. Douloureux parce qu'il a vécu des années très difficiles, de grandes crises de l'Église et, disons-le, d'une certaine façon, de la compagnie. Parce qu'il avait l'impression que, précisément, un certain nombre de choses de dévotion qu'on pouvait avoir étaient un peu mises au rencard. Et en particulier, que cette dévotion au Sacré-Cœur était mise au rencard parce qu'elle avait été peut-être présentée de façon un petit peu trop sanguinolente, excusez-moi l'expression, hein, voyez, voilà, avec trop représentative, doloriste, on va dire, doloriste, et avec insistance trop forte sur la réparation, alors qu'il semblait dans les années 50 et après les années 50 qu'il fallait insister beaucoup sur l'aspect de la résurrection du Seigneur. Mais lui, Édouard, qui était entré dans la compagnie en 1944, tout à fait après la libération, eh bien, Édouard était un peu douloureux de ça. Il avait l'impression qu'on n'était pas fidèle à ce qui avait été communiqué par Marguerite Marie et par Claude la Colombière et la grande tradition de la compagnie. Et donc, il était un peu douloureux, d'autant que c'était un caractère extrêmement sensible, très affectif. Alors, il a travaillé beaucoup, dans des conditions qui étaient un peu difficiles, pour arriver à nous donner ce livre magnifique qui s'appelle « La Bible du cœur de Jésus », qui est un gros ouvrage avec beaucoup de représentations, beaucoup d'images, très belles. C'est un très bel ouvrage, « La Bible du cœur de Jésus », qui, on voudrait bien le rééditer, parce qu'actuellement, il est épuisé. Et puis, il y avait en fait 4 tomes qui étaient prévus. J'en ai un autre ici, qui est le tome 4, qui est le dernier, sur la prière, le clair regard, la Bible du cœur de Jésus. Voilà, celui-ci. Donc, ce que je veux dire pour mon frère Édouard, c'est qu'il a vécu un travail acharné de réflexion, d'écriture, et aussi il a donné énormément de retraites, en particulier ici à Paray-le-Monial, et des retraites sur le cœur de Jésus, à partir du cœur de Jésus, donnant les exercices Saint-Ignace, mais en insistant beaucoup sur la dimension cœur, cœur de Jésus, cœur de l'homme, cœur du Père, voilà, sur le mystère de la miséricorde. Et donc il y a beaucoup de personnes, et je crois que nos frères, en particulier d'Emmanuel, savent bien que beaucoup d'entre eux ont été touchés par les retraites qu'ils ont vécues avec le Père Glotin. Souvent c'était des retraites de choix de vie qui décidaient de leur orientation et peut-être de leur consécration au Seigneur dans la communauté de l'Emmanuel. Il y a un lien très fort entre un certain nombre de prêtres, en particulier de l'Emmanuel, et puis le père Édouard Glotin. Ce que je voudrais dire, qui court un petit peu dans tous les témoignages que nous avons entendus, c'est qu'il y a une phase chez beaucoup de témoins du Sacré-Cœur, une phase un peu douloureuse. Douloureuse parce qu'ils sentent, que l'amour n'est pas aimé, que le cœur du Christ eh bien, souffre de n'être pas reconnu, alors que lui nous aime tellement. Et donc il y a une souffrance. Et je pense au père Réus, qui a terminé sa vie dans un temps de grande souffrance. Je pense au père peut-être Teilhard, qui a vécu aussi la fin de sa vie à l'écart. Il était un peu exilé à New York, et la fin de sa vie a été, oui, exilé en quelque sorte. Je pense au père Aroupé qui a terminé sa vie, voyez, en étant incapable de parler. Il était immobile dans son lit. Je me souviens de l'avoir vu à Rome, me montrant l'image avec les boat people, en particulier à cette époque-là, pour dire il faut prier pour eux, il faut prier. Et je sentais que c'était un homme de prière alors qu'il était réduit à l'immobilité complètement. Et donc c'est ça qui était mystérieux, c'est que ces grands témoins du cœur de Jésus ont été en même temps des témoins qui ont, en quelque sorte, vécu, comme notre père la Colombière, ultimement, qui ont vécu la passion du Seigneur, la souffrance du cœur de Jésus, méconnue, hein, et qui ont offert ça de toute leur générosité, qui ont offert ça avec une force incomparable. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que je ne vais pas trop m'attarder. Le père Glotin, que j'ai bien connu dans ces dernières années, mais il avait le Parkinson à la fin de sa vie, donc c'était très douloureux. Il était en même temps à certains moments un petit peu bipolaire, ce qui fait qu'il avait des moments un petit peu de grande exaltation dans le Seigneur, puis des moments de profond abattement. Et donc, mais toute cette souffrance était complètement offerte. Vous voyez, c'est ça qui nous touche beaucoup. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, au terme de ce petit parcours que nous avons fait, vous voyez, nous avons là des grands amis dans le Seigneur. Nous avons des grands amis dans le Seigneur. Et nous pouvons vraiment passer par eux, prier avec eux, leur demander de nous aider à vraiment aimer Jésus en son cœur sacré. Voilà. Je pense que c'est très important pour nous. Et c'est très bienfaisant. C'est pour ça que, même si vous ne retenez pas grand-chose de tout ce que nous avons pu vous dire, eh bien voilà, sachez-le. Sachez-le, vous voyez, et ces figures très diverses, un général de la compagnie, comme le père Aroupet, bon, un Teilhard qui était un très grand savant, admiré par beaucoup de gens de haute qualification scientifique, bon, un Berglotin qui a vécu une vie sur le terrain apostolique, très simplement, avec, en donnant des retraites au jour le jour. Voilà, le père Réus qui a vécu là-bas, au loin, au Brésil, et en donnant une vie de pasteur très généreux et d'intercesseur, je dirais. Ben, voilà, ils sont tous témoins de ce grand amour du cœur de Jésus et des relais pour nous. Ce sont des relais, voyez, que nous puissions vraiment voilà, vivre cette expérience-là, leur dire « aidez-nous, 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 hein, donnez-nous une passion pour le cœur de Jésus. Aidez-nous aussi, jésuites, qui sommes ici peu nombreux, apparaît, aider la compagnie de Jésus à retrouver tout son tonus pour témoigner du cœur de Jésus. » Amen.
Amen.
Voilà. Si tu me donnes juste 5 minutes... On peut terminer, ce que je vous propose, c'est de terminer en reprenant une hymne. Voilà, que vous, si vous avez vos feuilles de jeudi soir, vous pouvez les prendre. Sinon, il en reste ici. Voilà, vous pouvez les distribuer. Pour chanter simplement une hymne qui clôture cela, ce que nous venons de dire, en nous remettant, en nous recentrant sur le cœur brûlant de Jésus. C'est dans la dernière page là, de cette double page qui vous est remise. L'hymne que nous pourrons chanter la nuit de Pâques ou au dimanche de Pâques. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures. Voilà, c'est une des hymnes que notre frère Didier Rimaud avait composée. Eh bien, nous pouvons, alors même que nous sommes au cœur du carême, mais nous entrons dans le deuxième dimanche de carême où nous allons célébrer la transfiguration de Jésus. Voilà, cette transfiguration, eh bien, nous pouvons appeler cette brûlure de l'Écriture dans notre cœur. Alors, si vous connaissez la mélodie, vous pourrez le chanter avec moi. Sinon, vous écoutez, vous laissez entraîner. Oui, il en reste encore. C'est bon, tout le monde en a au moins une pour deux. C'est bon ? Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure. Pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne. La table où tu voulus t'asseoir, pour la fraction qui te révèle, je la revois, elle étincelle, de toi seul maître. Fais que je sorte dans le soir, où trop des miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, n'entre plus dans leur auberge, et chacun dit où donc irai-je si Dieu me manque. Mais ton printemps s'est réveillé dans mes sarments à bout de sève, pour que je sois cet étranger.